en mer par Armand Silvestre. Chapitre 1er. Enfin, es-tu marié ?
Non,
me répondit Jacques, et cette fois-ci je renonce absolument à l'institution des justes noces, comme disait le code latin. On ne trompe pas sa destinée. La mienne n'était décidément pas de vivre au coin d'un foyer tranquille, en face d'une épouse habile à broder des mouchoirs et à confectionner le thé familial, des enfants autour de mon fauteuil, et le cœur gonflé de dégoût pour la tourbe infecte des concubins. Ce sont fortunes paisibles écrites à l'avance quelque part, je ne sais où, mais que la volonté humaine ne saurait improviser, nonobstant les caprices du sort. Le traitsu aquemque voluptas irgilien est la devise des heureux. Il en est d'autres qu'entraînent au contraire une fatalité absolument opposée à leur goût, c'est mon cas. Car tu sais, si j'étais d'honnête nature, de tempérament vertueux, et s'il m'en a coûté de faire cocu mes meilleurs compagnons au lieu de l'être moi-même, comme il sied à tout homme de bien. Je n'étais qu'un braconnier de l'amour parce que les dieux m'ont refusé des terres à moi pour y offrir mon propre gibier aux passants, après en avoir tué légalement moi-même autant que j'aurais pu et suivant la solidité du fusil que le ciel m'aurait accordé. Nierais-tu la responsabilité humaine, Jacques, comme jadis Spinoza? Et ne t'aperçois-tu pas qu'une telle théorie est subversive de toute morale, la morale n'ayant de base sérieuse que la proclamation du libre arbitre en toute chose, ce qui revient à considérer les passions comme de simples bilbesées, dont on s'affranchit avec quelque bon vouloir? Laisse-moi tranquille avec ta philosophie. Ne conclue pas du particulier au général. Je ne parle après tout que de ma propre expérience. Tu as assisté à mes essais loyaux pour entrer dans la vie régulière, et tu n'as jamais douté de ma soumission profonde au désir de ma mère qui me voulait marier à tout prix. Tu as même fait un livre de mes tentatives malheureuses pour forcer la porte du temple du dieu Hymen. Tu me croyais certainement découragé, n'est-ce pas? Eh bien non. J'ai risqué une dernière aventure et, si tu en veux bien écouter le récit, tu jugeras toi-même qu'il convient de renoncer aux conjugales délices. Compte, mon garçon, compte toujours. Si ton histoire m'ennuie, je penserai à autre chose en l'entendant sans l'écouter, et j'engagerai le lecteur à en faire autant. Chapitre 2e. Te souviens-tu du peu de succès qu'avait eu mon voyage transatlantique quand je fus victime d'une anglo-saxonne qui se moqua si bien de moi et dont une visite de douane me révéla les coupables artifices? Ô néant des grandeurs! Le néant des grosseurs peut se comparer hardiment à toi. Quand les appâts qui m'avaient séduit s'effondrèrent, un à un, sous les doigts irrespectueux des visiteuses, ce fut comme un écroulement de mon rêve jonchant le sol de ses splendeurs brisées. Décidément, pensais-je, les traverser à la vapeur, dont la monotonie est particulièrement propre à bercer les illusions, sont contraires à mon projet de vertu. Mais j'essaierai, un jour ou l'autre, d'un voyage au long cours, autrement intéressant et accidenté. À moi, une place sur un des magnifiques clippers à voile qui promènent leurs passagers de Southampton en Australie. Là, de vraies émotions m'attendent, et je sentirai peut-être battre mon cœur sous le triple airain recommandé par Horace aux navigateurs, qui jusqu'ici ont préféré comme moyen de sauvetage la ceinture de liège. Un danger partagé, l'effroi commun d'une tempête, mille accidents que je ne saurais prévoir, peuvent jeter dans mes bras la fiancée si longtemps attendue. Ce qu'il peut m'arriver de pire, c'est de visiter un pays curieux, de voir sur place des kangourous et autres bêtes exotiques, et qui sait, c'est peut-être parmi les filles des convicts que je trouverai mon introuvable compagne. Ainsi parlais-je en moi-même, puis à haute voix à ma mère qui m'approuva absolument. Il y a 8 mois, justement partait le bâtiment de mes rêves, un superbe voilier, l'Albatros. Il était renommé de plus pour sa bonne tenue, et le capitaine Martins, qui le commandait, passait pour un de ces marins austères qui ne badinent pas avec la discipline et ne songe qu'à la régularité ponctuelle du service. Pas de foule à bord avec cela, une 20aine de passagers seulement, dont 4 dames appartenant à d'excellentes maisons, beaucoup de confortables, une table abondante, la possibilité de faire de la musique, ce qui est toujours en voyage une sérieuse distraction. Que pouvais-je souhaiter de mieux? Chapitre 3e. Des 4 passagères, une seule était vraiment charmante. Miss Allen avait une admirable chevelure blonde et des yeux bleus exquis. Sa robe très simple dessinait ses formes avec une vérité sculpturale et une fidélité éminemment plastique. Ce n'était assurément pas avec des paquets de dentelles qu'étaient modelés ses jolis seins, aux contours doucement ondoyants, ni ses hanches rebondies, pareilles à deux collines jumelles, où fleurissait la rose du désir. Tout était attirant et délicieux dans cette jolie personne, qui joignait beaucoup de grâce pudique à tant d'involontaires attraits. Comme je compris bien vite qu'il ne fallait pas lui faire ostensiblement la cour, au moins jusqu'à ce que j'eusse pris un parti définitif, car compromettre sans raison une femme est une action abominable, je déversai mes hommages apparents sur une autre miss d'une trentaine d'années, celle-là, infiniment coquette, et qui ne douta pas un seul instant de la sincérité de ma cour. Car elle était de celles qui ne comprennent pas qu'on en puisse aimer d'autres, et beaucoup de vieilles filles gardent, par une singulière pitié du destin, cette consolante illusion que ce sont elles qui n'ont point trouvé d'époux digne de vivre à leur côté. Miss Mary était d'ailleurs assez bien pour que mes assiduités ne me rendissent pas ridicule aux yeux de mes compagnons de route. Experte dans l'art d'accommoder les restes, elle présentait encore un très sortable ragoût de charme en pleine maturité. Gorge médiocrement virginale mais abondante, beaucoup de langueur dans les poses, une pointe de prétention dans l'esprit. Pour être franc, j'en ai adoré dans ma jeunesse qui ne la valait certainement pas. Grâce à cet ingénieux manège, je pus tout doucement et en tâchant de m'en faire aimer, sans qu'il en parût rien pour personne, étudier le caractère de Miss Ellen, et je dois dire que chaque découverte nouvelle me fut un véritable enchantement. C'était bien un trésor de naïveté, de douceur, d'idées honnêtes et élevées que je sentais sous ma main. Pendant que j'observais ainsi en sourdine et en décochant sournoisement mille galanteries délicates à ma bien-aimée, Miss Mary triomphait de la grande passion que je feignais pour elle. Elle me croyait sincèrement malheureux et en était enchantée. Où le bon naturel des femmes se retrouve tout entier. Le capitaine Martin souriait en nous regardant. Chapitre 4e. Il était dit que mon programme s'effectuerait avec une ponctualité merveilleuse. J'avais rêvé une tempête. Nous faillîmes disparaître sous l'océan. Je ne sais plus quel diable de cap nous doublions, mais je me souviens que l'équipage tout entier se crut perdu. Ce fut une bourrasque sans nom, une effroyable mêlée de tous les éléments autour de nous. Le capitaine fut héroïque. Il ne quitta pas le pont, où de lourdes lames venaient le renverser, et il continua de commander la manœuvre en homme, qui veut disputer chèrement à la mort la vie de ses hôtes. Pendant ce temps-là, je ne m'étais occupé, moi, que du salut de Miss Ellen. Seuls, tous deux, dans une cabine. L'amour est frère de la mort, a écrit un grand poète. Ce grand abandon devant le danger nous fut un oubli de toutes choses. Que nous apportait l'univers s'écroulant autour de nous? Oh, les magnifiques noces sous le tonnerre, et les nuits crachant du feu. Pour le lit nuptial, les vagues bondissantes sous un rideau d'éclairs. Ce fut l'instant le plus délicieusement solennel et le plus cruellement voluptueux de notre vie à tous deux, sans doute. Car je n'en pouvais plus douter, j'étais aimé autant que j'aimais. Une heure après, nous étions sauvés, et les plus enthousiastes embrassaient les genoux du capitaine Martins. Le lendemain, j'éprouvais, je l'avoue, un remords véritable de mon bonheur. J'avais détourné de ses devoirs une jeune fille sage. J'avais l'intention de l'épouser, il est vrai, mais quand ? Nous étions encore au commencement de la traversée. Je brûlais de réparer le tort que je lui avais fait, quand une circonstance imprévue m'en donna comme à plaisir le moyen. En feuilletant machinalement le code du bord, j'appris que le capitaine était, durant la traversée, investi de toutes les fonctions d'officier d'état civil, pouvant marier et devant constater naissance et décès absolument comme les choses se font à terre. Mon parti était pris. Mais voulant faire à Miss Ellen, que je voyais toute confuse et désolée de sa chute, une surprise qui lui donna une haute idée de ma délicatesse, je me gardais bien de lui en communiquer quoi que ce soit. Ce bon capitaine Martins avait je ne sais quel air paternel dans les façons qui m'encouragea. Sans lui nommer ma victime, je lui fis ma foi une confession complète. Il m'accueillit avec infiniment d'indulgence, et quand je lui eus dit pourquoi je le venais trouver, il me tendit cordialement la main. « Ce que vous faites est bien, jeune homme, me dit-il. Un honnête homme ne garde pas sur la conscience le remords, d'avoir abusé des sentiments d'une femme quand celle-ci est libre. Il y a longtemps, je dois l'avouer, que j'avais remarqué votre penchant pour cette dame, avec cette finesse du marin à qui rien n'échappe de ce qui se passe à son bord. J'espérais que les choses n'iraient pas aussi loin, mais enfin, puisqu'elles ont pris un tour irrévocable, je suis heureux que votre honnête résolution répare tout de suite ce que la situation avait de fâcheux pour la morale. Je vais donc faire prévenir sans plus tarder Miss Mary. Miss Ellen, voulez-vous dire ? Le capitaine Martins devint vert pomme. C'est Miss Ellen, repris-je sans m'apercevoir de son émotion, que j'ai... Je n'eus pas le temps d'achever, le marin me prit le poignet avec une force désespérée. Ses yeux jetaient des éclairs. « À la première escale, » fit-il d'une voix brisée, « monsieur, vous quitterez le bord. » Je voulais répliquer, mais d'un accent menaçant et tendant la main vers son revolver. « Je n'ai rien à vous dire, sinon que je suis maître absolu ici. » Le lendemain, j'ai été débarqué avec tous mes bagages sans avoir revu Miss Ellen. « Miss, j'en appris une belle 6 mois plus tard. Miss Ellen était tout simplement Mrs. Martins. Cet austère capitaine, à qui les règlements défendaient d'emmener sa femme dans ses traversées, la faisait tout simplement inscrire comme passagère sous un nom de jeune fille. Décidément, je ne me marierai pas. » Et Jacques se mit à suivre une belle fille qui passait dans la rue. Ainsi s'achève, en mer, d'Armand Silvestre.